franceinter.fr.
Bonjour Yves Decamp.
Bonjour.
La revue de presse sans journaux ce matin, puisqu'une grève des ouvriers CGT du livre a bloqué la fabrication des quotidiens nationaux. Pas de journaux en kiosque, mais on les trouve sur Internet. On revient ce matin dans la presse sur cette vaste question. Faut-il interdire la fessée?
Eh bien c'est non. Pour les Français, c'est non. 89% en sondage instantané du Parisien aujourd'hui en France. 4665 votants. Et donc une très large majorité qui continue de croire aux vertus d'une bonne petite fessée. On l'a dit, c'est une information du Monde.fr. Le Conseil de l'Europe s'apprête à condamner la France pour n'avoir pas prononcé d'interdiction suffisamment claire et contraignante des châtiments corporels. Interdit bien entendu à l'école, mais pas à la maison. Et ce faisant, la France violerait donc l'article 17 de la Charte européenne des droits de l'homme. On lira sur le site du Parisien ou du Huffington Post qu'elle n'est pas la seule dans ce cas. Le Royaume-Uni et la Belgique sont tout aussi réticents à modifier leur législation sur ce point. Et pourquoi le ferait-on d'ailleurs? Pour André Bercoff dans le Figaro, c'est plutôt le Conseil de l'Europe qui mériterait une bonne correction. Car chacun sait, dit-il, que l'enfant et l'adolescent ne s'opposent qu'en s'opposant. Et que s'ils ne rencontrent face à eux qu'une absence totale d'un commencement de résistance, eh bien le monde ne leur apparaît plus que comme un réceptacle de leurs caprices. C'est ce que pensent beaucoup de mamans comme celle-ci interrogée sur le site de l'INA.
Une petite fessée et pas une grosse fessée. Une petite fessée sur les fesses, c'est pas non plus... c'est pas la fin du monde, quoi. Après, des fois, une fois qu'on a mis une fessée, ils se calment.
Voilà, un avis que les pédopsychiatres dans leur majorité contestent, hein, comme le rappelle une infographie de Slate.fr, avec ce dialogue imaginaire entre un spécialiste de l'enfance et une maman, justement, ou un papa. « Puis-je mettre une fessée à mon enfant ? Non ! Même s'il est insupportable ? Même ! À travers sa couche, il ne sentira rien, n'insistez pas. J'en ai pris plein de fessées quand j'étais petit, j'en suis pas mort. Eh bien, ravi que vous ayez survécu, mais c'est toujours non. Il y a d'autres moyens de punir sans violence.
Allez, Yves Decamp, une bonne fessée à tous les complotistes.
Voilà, notamment les jeunes, justement, dont une partie notable a été séduite, paraît-il, après les attentats de début janvier. Elle a été séduite par les explications conspirationnistes qui ont fleuri sur la toile et les réseaux sociaux. Faut-il les rappeler? Avec le Figaro, ces terroristes, notamment, qui seraient liés au service secret français. De la même façon, on se souvient qu'il n'y a jamais eu d'avion sur le Pentagone le 11 septembre 2001 et qu'on n'a jamais marché sur la Lune. Bon, le complotisme, ça date de la nuit des temps, précise le politologue Pierre-Henri Taguieff. Les hommes s'accrochent à ces discours comme à des superstitions ou des religions. Et en tout cas, c'est un vrai défi pour l'école, dont le rôle dans ce domaine peut être essentiel, fessé ou pas. Sa mission à l'école, demande Caroline Beyer, n'est-elle pas, entre autres, d'aider les élèves à faire la distinction entre un fait et une opinion ? Eh bien, pour l'instant, le ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, se contente de surfer sur l'existant sans vraiment répondre au problème. François Dufour, le rédacteur en chef du Petit Quotidien, le dit aussi. Les 7-17 ans sont très mal éduqués aux médias et continuent de confondre des informations et des rumeurs en mélangeant les journalistes, les blogueurs, les animateurs de télé. Alors qu'aujourd'hui, conclut Dufour, l'éducation aux médias et à Internet est bien plus importante que les équations du deuxième degré ou Madame Bovary. Voilà, disons que les uns n'empêchent pas l'autre pour ne fâcher personne.
À l'opposé des complotistes, Yves Decamp, les lanceurs d'alerte.
Qui eux nous alertent sur de vrais dangers, de vrais scandales. Snowden sur la NSA, Falciani sur HSBC, Irène Frachon sur le Mediator, héros des temps modernes ou quelque chose comme ça. Malheureusement, le plus souvent, ils sont mal protégés. Et Libération le rappelle à l'occasion d'un meeting de soutien qui leur sera consacré ce soir à Paris. Comment obtenir pour eux, qui sont souvent grillés dans leur secteur d'activité, comment leur obtenir un statut, une protection juridique? C'est comme pour l'interdiction de la fessée, la France là aussi est en retard. Une soixantaine de pays ont une législation favorable aux lanceurs d'alerte et plus généralement à tous les salariés qui ont des informations sensibles à délivrer. En Angleterre par exemple, des avocats sont là pour leur répondre et ces salariés pourront garder leur poste jusqu'au procès. Dans une lettre ouverte que publie Libé, une dizaine d'organisations pressent donc François Hollande d'agir en expliquant que le rassemblement autour des valeurs fondamentale de la République, dont on parle tant ces dernières semaines, doit aussi conduire à lutter contre ce qui la mine, à savoir la corruption et la primauté du droit des plus forts.
Et un lanceur d'alerte inattendu dans la presse d'hier matin, Nicolas Sarkozy, qui prévient ses électeurs d'un danger baptisé le FNPS.
Un argument classique à droite, comme le rappelle un blog du Monde.fr. L'instrumentalisation de l'extrême droite par le PS, c'était déjà l'argument du RPR contre François Mitterrand dans les années 80, sachant qu'à l'époque, effectivement, la proportionnelle intégrale avait fait entrer le FN à l'Assemblée. Depuis 3 ans, le même reproche est adressé à François Hollande, dont les intentions seraient identiques. Cette petite phrase du président de l'UMP, ce n'est jamais que du copier-coller, comme le prouve cet extrait repris par Slate.
Oui, j'accuse François Hollande, président de la République, de favoriser par sa politique la montée du Front National. Ce n'est pas l'UMPS, c'est le FNPS.
Voilà, Jean-François Copé, fin 2013. À chacun sa cible pour Patrick Chabanet dans le journal de la Haute-Marne. Marine Le Pen vise l'UMPS, voilà maintenant le FNPS. À quand donc l'UMP-FN ? C'est un peu l'écho des sales vannes pour Alain Auffray dans Libération. Nicolas Sarkozy, dit-il, veut s'extraire du rôle ingrat de chef de parti rassembleur et consensuel dans lequel il s'est enlisé. Pas question donc pour lui de laisser le monopole des idées à ses rivaux potentiels, Juppé et Fillon. Sauf que... ce n'est pas très bon signe en général quand la communication d'un parti s'inspire ainsi des slogans de la concurrence. On peut penser comme Jean-Michel Helvig dans La République des Pyrénées, que l'imagination n'est pas près d'être au pouvoir, décidément. D'autant, ajoute Dominique Garraud dans La Charente Libre, qu'en mettant sur un plan de stricte égalité son opposition aux deux formations, le FN et le PS, le message de Nicolas Sarkozy pourrait être contre-productif dans son cœur de cible. Les électeurs de la droite désillusionnés qui rejoignent le FN. Réponse donc les 22 et 29 mars au moment des élections départementales, car l'objectif que rappelle aussi Cécile Cornudet dans Les Échos, il est là, c'est que l'UMP arrive premier ou second dans le maximum de cantons et surtout qu'il devance le plus souvent possible le PS, le PS à qui tous les sondages promettent déjà quoi ? Bruno, une bonne fessée.
Moi j'aime bien la fessée, ça chatouille, ça chatouille.
Yves Decamp, vous sortez. Il est 8h41, c'était la revue de presse sur France Inter.